franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La peste. La peste, une maladie infectieuse qui n'est toujours pas éradiquée, une histoire qui n'est toujours pas interrompue et que reprend à nouveau frais dans un excellent livre aux presses universitaires de France. Jean Vitaud, bonjour.
Bonjour.
Jean Vitaud, qui n'est pas un historien de hasard, mais qui est aussi un médecin de haute réputation. Votre spécialité, Jean Vitaud ?
Je suis gastro-entérologue.
Alors, on ne va pas décrire aujourd'hui l'attirail du gastro-entérologue.
Les médecins visitent 30 nouveaux malades par jour et autant de morts. C'est alors qu'on voit apparaître dans les rues de la ville cet habit insolite et inquiétant porté par les médecins. Le nez, en forme de bec, est rempli de parfums et oint intérieurement de matière balsamique. Sous le manteau, on porte des bottines faites de maroquins, des culottes de peau qui s'attachent aux bottines, une chemisette de peau dont on renferme le bas dans les culottes. Le chapeau et les gants sont aussi de peau. Les cadavres qu'on n'ose plus toucher sont manipulés avec des pinces de 2,50 m de long.
C'était le costume utilisé au XVIIe siècle par vos collègues de l'époque ?
Absolument. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de l'étiologie de la peste, et la chose la plus répandue était que l'on pensait qu'il s'agissait d'une corruption de l'air. Et donc, on se protégeait de l'air, on brûlait des parfums dans les rues, d'ailleurs des parfums qui étaient parfois étranges, puisqu'on y mélangeait de l'antimoine, de l'arsenic et de la poudre à canon. Et cela ne servait bien évidemment à rien.
Et on touchait les malades
On touchait
très
les
loin,
malades de loin,
et
on les examinait fort peu, au moins du moins, pour les médecins qui étaient de tradition scolastique.
De même, les clercs souvent distribuaient la communion, l'hostie, avec une longue pince.
Alors
vous prenez la question de la peste à bras-le-corps,
oui.
Jean Vitaud, et puis vous dites que c'est une affaire mondiale, prendre à bras-le-corps et examiner la question du point de vue du monde entier, puisque les trois grandes pandémies, vous allez nous dire quand elles sont intervenues, n'ont pas concerné évidemment que l'Europe.
Non, alors la peste est probablement au départ une maladie asiatique qui vient de l'Asie centrale, aux alentours du lac Baïkal et de cette région-là, et qui ensuite se répand suivant les routes de la soie vers l'est, c'est la Chine, et vers l'ouest, par la route maritime et par la route terrestre, c'est l'Empire byzantin, puis l'Europe dans son entier.
La première grande pandémie, d'ailleurs, va se déclarer à Constantinople.
La première grande pandémie commence en 541, à vrai dire en Égypte d'abord, puis remonte à Constantinople, où elle fait plus de 10 000 morts par jour, et elle frappe durement Justinien, qui essayait de restaurer l'Empire byzantin, à la suite de quoi elle va suivre toutes les voies de communication et de commerce dans le bassin méditerranéen, jusqu'à arriver à Tours, où Grégoire de Tours la décrira de façon effarante.
Mais on en verra aussi des aspects inquiétants en Chine, en Syrie. Ça, c'est la première grande pandémie. Puis la seconde.
La seconde grande pandémie commence en 1347 à Caffa. Caffa, c'est un comptoir de la mer d'Azov tenu par des Génois. Actuellement, ça s'appelle Alexeïev et c'est en Ukraine. Et là, il se passe une histoire extraordinaire. Un camp de la Horde d'Or, qui s'appelait Janisberg, assiège la ville. La peste se déclare dans son camp et, mauvais perdant, il prend ses machines de guerre et catapulte les cadavres des pesteux à l'intérieur de la ville. Déjà la guerre bactériologique. Ouais. Il signe une trêve avec les Génois. Les Génois, effarés, partent sur leurs galères. Et tout le long de leurs arrêts, c'est-à-dire Constantinople, Corfou, Gênes, Marseille, Majorque, Barcelone, la peste suit comme une traînée de poudre.
Et elle va durer en Europe avec des surgeons, peut-être jusqu'au début ou au milieu du XVIIIe siècle. De la troisième pandémie, on parlera en son temps. Elle continue peut-être aujourd'hui. Elle est moins grave, mais c'est à l'occasion de la troisième pandémie qu'on a découvert les agents de la peste. Mais restons dans l'état qui était celui des clercs, des responsables, des malades et des médecins comme vous au XVIIe siècle, au temps de la fin de la deuxième pandémie.
Allez, voilà encore un mort. Il faut les évacuer au plus vite. Sortez vos morts !
Monsieur l'abbé, je n'ai plus, je vous en supplie !
Tournez vos regards vers Dieu, mon enfant. Et maintenant, réjouissez-vous. Vous voilà sur le seuil de votre vie éternelle.
Sortez vos morts ! Déposez-les sur le seuil de la porte !
Yessiré, jour de colère, vous nous raconterez, Jean Vito, quelle panique provoque régulièrement la peste. C'est un extrait du film de Ken Russell, ça se passe au XVIIe siècle. Un peu plus tard, 1720, Marseille, vous avez une dilection pour la Provence.
Ah oui, absolument.
Nous sommes au printemps, au mois de mai, et va arriver un bateau, il vient des échelles du Levant, de Syrie. Il est commandé par le capitaine Château, il est porteur de ballots de coton, de soie, d'indienne. Et en principe, il doit se conformer. Son capitaine doit se présenter au bureau aux mesures de surveillance instaurées depuis le siècle précédent dans le port de Marseille.
Où venez-vous, capitaine ?
Je suis parti de Sède, en Syrie, le 31 janvier. Tripoli, Chypre et Livourne.
La palette de serments, s'il vous plaît.
Nous, capitaine Château, certifions que toutes les personnes...
Non, monsieur. Je ne puis faire une telle déclaration. Je dois vous mettre au courant de certains incidents survenus à mon bord pendant la traversée. J'ai embarqué en Syrie quelques négociants turcs qui se rendaient à Chypre. Or, deux jours après avoir quitté Tripoli, l'un d'eux est tombé malade. Il est mort. Mort en quelques heures. J'ai ordonné d'immerger le corps. Deux matelots s'en sont chargés. 48 heures après cet incident, les matelots chargés de la corvée sont morts leur tour. J'ai pensé que les choses en resteraient là. Mais la même semaine, j'ai encore perdu trois hommes d'équipage. Les médecins de Livourne croient à une fièvre maligne pestilentielle. Tout cela est consigné sur mes patentes. J'ai pris toutes les précautions. Je me suis isolé à la poupe pendant tout le reste du voyage. Mon bateau est à l'ancre à l'île Pomègue. J'attends vos ordres.
Nous allons en parler au conseil. En attendant, prenez la quarantaine à l'île de Jarre. On va vous envoyer le chirurgien de la santé.
Et pour les marchandises ?
Débarquez-les au Lazaret. Elles resteront en purge jusqu'à la décision du Conseil.
Du point de vue de la marche de l'histoire, la peste de Marseille est bien documentée. On va passer toute une série d'archives venues d'un film d'André Tesser, un téléfilm de 1966. Et puis elle est bien documentée aussi pour l'historien que vous êtes.
Elle est parfaitement bien documentée puisque un grand nombre d'écrits ont été publiés dès 1720. Alors, il faut savoir que l'histoire telle qu'on la raconte là est peut-être... pas tout à fait exact, parce que le capitaine Château n'était pas innocent. C'est-à-dire que globalement, effectivement, ils étaient morts pendant le séjour, 9 personnes en tout. Il s'arrête à Livourne, mais à Livourne, on ne l'a pas laissé débarquer. On l'a mis dans une crique à part, gardé par des soldats, et les chirurgiens de Livourne sont venus. Et effectivement, ils n'ont pas parlé de peste, mais de fièvre pestilentielle. Alors, la distinction est quand même menue. Et alors, il y a un érudit récemment, Toulonnais, qui a découvert que très probablement, à la suite de cela, il avait été aussi près de Toulon, dans une petite baie, où il avait rencontré les armateurs, parce que le problème de... ce bateau, c'est qu'il contenait des soieries de grande valeur, on dirait actuellement plusieurs millions d'euros, qui étaient destinées à la foire de Beaucaire. Et que un des armateurs était le principal échevin de Marseille, qui s'appelait Jean-Baptiste Estelle.
Est-il bien prudent d'ailleurs de laisser les ballots être en partie débarqués ?
Eh bien, ce n'était pas ce qui aurait dû être fait. Notamment, ils auraient dû être mis à Pomergue. Et si ce n'était pas suffisant, il y avait encore une autre île qui s'appelait l'île de la Jarre, où normalement on mettait les problèmes, comment dire, potentiellement infectieux. Et c'est d'ailleurs là que finira le grand Saint-Antoine, où finalement il sera consigné. On mettra les marchandises là aussi. Et d'ailleurs, ces marchandises seront mal gardées, puisque un fragment, un ballot, sera pris par des contrebandiers qui venaient de Toulon, ce qui explique que la peste a été à Toulon également.
Et puis elle ira même jusqu'au Gévaudan, par les ballots de marchandises.
Et puis jusqu'à Orange.
C'est seulement en septembre que le grand Saint-Antoine, c'est le nom du bateau du capitaine Château, est brûlé, ainsi que le reste de la cargaison. Et on est déjà en septembre, au zénith de la peste, qui va faire en septembre 1000 morts par jour et qui touche dès le mois de juillet dans la touffeur de l'été marseillais.
Rien ne prouve jusqu'à ce jour qu'il s'agit d'un mal contagieux.
Rien ? Nous avons visité, mon père et moi, plusieurs personnes frappées du même mal dans le quartier des Carmes. Dans la rue de l'Escale, Madame Égazière et Madame Tanous sont mortes il y a 4 jours. Aujourd'hui, toute la rue de l'Escale semble atteinte. Un certain Krebs, tailleur, place du Palais, a succombé avant-hier avec une partie des membres de sa famille. Le joli Salem, 12 ans, place Lynch, est mort hier. Tous ces gens-là présentaient les mêmes symptômes. Ils avaient tous des bubons ou des charbons. Messieurs, si des accidents semblables arrivent simultanément dans des rues éloignées les unes des autres, c'est que l'ennemi est dans tout le quartier. Dans quelques jours, nous n'aurons plus les moyens de le cerner dans les réduits obscurs de ce quartier et il se répandra dans toute la ville.
Comment les échevins, comment les administrateurs, comment les clercs pouvaient-ils agir?
Alors, il y avait 2 positions face à la peste. La première était celle de ce qu'on appelle l'électuaire d'Hippocrate. Cito longe tarde en latin, ce qui veut dire « pars vite, va loin et reviens tard ». Alors ça avait 2 avantages et un gros inconvénient. On partait, donc on échappait au principal foyer, on se mettait dans la maison des champs, mais au poussier, on pouvait répandre la maladie. La deuxième était celle qu'on fait un certain nombre de communautés religieuses à Marseille, c'est s'enfermer chez soi sans aucun contact avec l'extérieur, comme les
clercs de Saint-Victor.
Les clercs de Saint-Victor, avec Monsieur de Matignon, qui était leur doyen, et un médecin de la ville de Marseille, enfermé avec eux.
Mais comme dit un mémorialiste, on peut être reconnaissant aux clercs de Saint-Victor d'avoir fait beaucoup de dons. On leur serait encore plus reconnaissant s'ils avaient distribué ces dons eux-mêmes.
Eux-mêmes, ça c'est exact. Et alors, pour les échevins, la réponse est claire, un grand nombre sont partis, comme la majorité de l'architecture municipale de Marseille. Et pour les clercs, un certain nombre sont partis, un certain nombre d'autres sont restés, et ceux qui sont restés sont dans l'ensemble tous morts ou presque, le premier ayant été un père jésuite dans le quartier de l'Échelle, justement.
Les protecteurs auxquels font appel les clercs, la Vierge d'abord?
Alors, ils font appel à la Vierge, qui a toujours été connue, ne serait-ce que dès l'épidémie du XIVe siècle, avec la Vierge au manteau, qui étend son manteau sur les fidèles pour les protéger des flèches divines qui représentent l'épidémie. Ce qui explique que le premier saint qu'on ait invoqué pour la peste, c'est Saint Sébastien, qui était un archer de Dioclétien qui a été tué de flèches. Et ensuite, c'est devenu Saint Roch au XIVe siècle, pendant la grande épidémie, qui lui est devenu le saint emblématique de la peste, que l'on figure toujours avec un grand chapeau, une besace, une jambe découverte avec un bubon, et un petit chien qui reste encore dans notre langage quotidien, puisque c'est le roquet, le chien de Saint Roch.
Qui lèche le bubon.
Qui lèche le bubon et qui a été chercher du pain pour Saint Roch.
Ça, c'est un saint français. Saint Charles Borromée, archevêque de Milan.
Saint Charles Borromée est un saint de Milan, mais qui n'est pas mort de la peste, qui a été récompensé, c'est un jésuite, évêque de Milan, qui a été récompensé parce qu'il avait été d'une grande douceur et d'un grand secours pour ses concitoyens pendant l'épidémie de peste.
À Marseille, chaque printemps, on renouvelle le vœu de l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, fait en 1720.
Monseigneur de Belzunce est resté à Marseille. Alors, les interprétations sont variables. Il y en a qui disent qu'il a été d'un dévouement exceptionnel. D'autres disent qu'au plus fort de la peste, il était plutôt resté confit dans son évêché. Mais enfin, il a fait des manifestations solennelles, des processions au début, puis on s'est rendu compte que les processions favorisaient la contagion, donc on n'a plus fait de processions. Et il a prêché en haut du clocher des Accoules sur toute la ville de Marseille. Et il a mis Marseille sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus, ce qui explique la fête à laquelle vous faites allusion,
généreux,
qui se déroule toujours dans l'église du Prado.
Généreux et faisant savoir qu'il était généreux. Alors il faut imaginer que tout le monde est dans l'obscurité, que on pense qu'il y a un mécanisme de contagion, on n'en est pas précisément sûr. Les médecins d'ailleurs ne cessent de discuter entre eux.
Notre meilleur chirurgien, Monsieur Bouzon, est allé visiter la plupart de ces malades. Il a reconnu dans tous les cas les symptômes d'une fièvre vermineuse.
Tout d'abord, messieurs, permettez-moi de m'étonner que dans une ville ayant un collège et une agrégation de médecine, on ne les ait pas encore assemblés depuis plus d'un mois que la maladie a fait des victimes dans le port. Ensuite, je tiens à préciser que Monsieur Bouzon a visité effectivement les malades dont mon fils a cité les noms, mais jamais, à aucun moment, M. Bouzon ne s'est approché d'eux et ne les a touchés. Jamais. Il n'a constaté les bubons sous les aisselles. Il ne parle aux malades que de loin. J'ajoute que la peste est un mal dont la plupart des personnes de l'art n'ont que vaguement entendu parler, Dieu merci. Dès lors, comment pourrait-il en reconnaître les symptômes ?
Le serpent, lentement, rampe de l'un aujourd'hui et demain l'autre tue. Dieu laisse agir en nous l'esprit d'aveuglement. Un chacun de ce mal parle diversement. Esculape lui-même, aussi prudent qu'habile, méprise le péril qui menace la ville.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Vitaux, lointain descendant d'Esculape, médecin de son état, historien de la peste, c'est un livre aux presses universitaires de France. Vos collègues de l'époque de la grande peste de Marseille, c'est le dernier surgent de la deuxième grande pandémie. Ils étaient dans l'obscurité.
Alors, il y a deux problème différent. Il y a le problème du médecin de l'office de santé qui était chargé de surveiller la peste et qui a nié du début jusqu'à la fin que ce n'était pas la peste. D'ailleurs, il en est mort. Alors, l'abbé Papon, qui a écrit une belle histoire de la Provence à la fin du XVIIIe siècle, se demande s'il était incompétent ou s'il avait été acheté par les échevins. Et puis, il y a l'homme qui a découvert que c'était la peste, qui l'a affirmé, qui a pris les mesures immédiates. Et lui, c'était le médecin des galères. Et ce médecin des galères a dit « c'est la peste » et il a fait mettre les galères en état de défense. Donc, ça, c'est un premier problème. Et puis, il y a un deuxième problème. Il y a eu des querelles entre de nombreux médecins parce qu'il y avait les médecins de Marseille, ceux de Montpellier qui sont venus. Et puis, il y avait les médecins du Régent à Paris qui s'en occupaient aussi, dont le principal s'appelait Chirac. Et alors, ces médecins de Montpellier étaient des émules de l'école de Salerne, c'est-à-dire qui avaient été très inspirés par les médecins musulmans qui, en fait, avaient recueilli les travaux des Grecs, essentiellement, alors que les médecins de Marseille restaient plutôt dans la tradition scolastique. Les médecins de Montpellier ont examiné les malades, les médecins de Marseille les regarder de loin et éventuellement un aide toucher les malades pour savoir ce que ça pouvait être. On pense bien que cela n'était pas clair, mais dans tous les cas, les deux catégories de médecins ont fait le diagnostic. Le seul problème de l'erreur de diagnostic ou de quelque chose de nettement moins avouable est sur le médecin de l'office de santé des infirmeries.
Donc, Arrault sur l'école marseillaise, j'ai bien compris, Jean Vitaux. En tout cas, si certains approchent peut-être d'une explication, la fin de la peste de Marseille 1721 ne peut vraiment être interprétée. C'est seulement quand, en Asie, va commencer la troisième pandémie, nous sommes beaucoup plus tard, qu'on va détecter les véritables agents qui répandent la peste. Alors, la troisième pandémie s'est répandue, dites-vous, à partir de la Chine, à la fin du 19e siècle. On en voit des rebonds régulièrement. En Chine, l'année dernière, traitée à la manière chinoise, il n'y a pas eu d'information. En Inde, en 1994.
1500 cas de peste sont recensés aujourd'hui en Inde, dans la région de Surat, où l'on compte maintenant 48 morts de cette maladie qui se présente sous une forme pulmonaire facilement contagieuse. Mais les symptômes sont très visibles, avec de la toux et une très forte fièvre. Pour les médecins indiens, les antibiotiques dont ils disposent devraient permettre de mieux juguler l'épidémie que dans les années 60. Aujourd'hui à Bombay, les gamins font la chasse aux rats, car le bacille de la peste, pour se propager à l'espèce humaine, a toujours eu besoin de puces et de rongeurs. Dans certains pays, où règnent les mêmes conditions insalubres qu'en Inde, on a fermé les aéroports aux avions en provenance de l'Inde.
Le bacille de la peste, nous dit-on en 1994, a toujours eu besoin du rat et de la puce du rat. Bacille de la peste, rôle du rat. C'est seulement un siècle avant, alors, dans les années 1890, en Asie, qu'on découvre cela. Alors,
la découverte de la peste et de son mode de propagation doit tout aux élèves de Pasteur. Alors, le premier qui a découvert le bacille de la peste, c'est Alexandre Yersa.
Vous pouvez le dire en latin, vous adorez le latin.
Il a découvert la bactérie qu'on a d'abord appelée Pasteurella pestis, puis quand on a dénombré le genre, on l'a appelée Yersinia pestis. Alors, cette bactérie, il l'a identifiée de façon amusante parce qu'il était en concurrence avec un Japonais qui était à l'hôpital, qui s'appelait Kitisako, mais lui, il avait une paillote. Et alors, le Japonais a cherché les hémocultures, lui a soudoyé des marins anglais, a pris les bubons et a trouvé le germe, l'a fait pousser. Et il l'a fait pousser parce qu'il n'avait pas d'étuve moderne, mais à la température de Bombay à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Et
cette, comme il était cette bien lutte, organisé, elle a lieu à Hong Kong en 1894.
En 1894. Et donc, à partir de là, après, il envoie le germe à Paris. Et c'est un triomphe. Et on essaye de faire une sérothérapie qui marchera plus ou moins. Mais immédiatement après, la peste part de Hong Kong et arrive en Inde, à Bombay. Et là, c'est en 1898. On met de nouveau Yersin à la tâche, mais il est atteint d'un paludisme, il doit partir. Et c'est un autre pasteurien qui s'appelle Paul-Louis Simon qui identifie à Karachi de façon flagrante que ce sont les puces du rat qui sont chargées du bacille de Yersin qui transmettent la peste, qui est au départ une maladie du rat, à l'homme. C'est-à-dire que quand le rat est en phase septicémique et va mourir, la puce le quitte et cherche un autre homme, un autre hôte, et cet hôte est habituellement l'homme. Et c'est comme ça que c'est une anthropozoonose qui fait appel à la fois à un
réservoir,
anthropo pour hommes, zoonose pour animaux, et ose pour maladies infectieuses, qui touche à la fois le rat et les rongeurs qui sont le réservoir de la maladie, l'homme, qui est un hôte accidentel, et entre les deux, pour transporter la bactérie, c'est la puce.
Quand il y a une trilogie comme celle-ci, l'éradication est quasi impossible. Quand le réservoir est seulement humain, l'éradication est possible.
La variole. La variole. Mais c'est le seul cas.
La variole, alors, c'est très grave. La variole a tué peut-être davantage, au moins en Amérique latine, que la peste.
Ah, mais elle a tué beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas éradiquer le rat. On a essayé, on peut tout au plus en limiter le nombre par la dératisation, mais ça reste un problème extraordinairement difficile. D'autre part, éradiquer la puce, c'est un autre problème, parce que bon, chez l'homme, on y arrive par les soins d'hygiène, mais obtenir l'hygiène du rat, c'est quand même un autre problème. Et deuxièmement, l'excès et l'abus d'insecticides fait qu'habituellement, l'insecte résiste à l'insecticide. Et donc, on se retrouve dans la case de départ. Il suffit de voir ce qui s'est passé pour le paludisme.
Mais certains de nos auditeurs, achevant leur déjeuner, oui, c'est peut-être le moment ou jamais de parler du rat.
Alors, le rat est une bête extraordinaire. C'est, on peut dire, un commensal de l'homme qui vit avec l'homme, même s'il s'en cache. Et il s'en cache plus en Occident qu'en Orient. C'est comme ça. Et alors, le problème du rat, c'est que le rat est un animal récent. en Europe, parce que c'est un animal immémorial en Asie, mais en Europe, les Romains ne connaissaient pas le rat. On se rend compte qu'il est apparu vers 6 à 8000 ans sur les versants est de la Méditerranée, et avant notre époque, avant l'ère chrétienne, il en a retrouvé du rat qu'à trois endroits, à Pompéi, un en Corse et un au Baléares, le rat noir. Mais alors ce rat noir va se multiplier probablement avec le commerce et l'industrialisation et les villes romaines. Et à la fin de la pandémie de Justinien, il y en avait sur toutes les voies de communication, mais pas dans les campagnes. C'est pour ça que cette première pandémie épargne les campagnes.
Donc là, on est au 8e siècle quand se termine cette pandémie.
En 780, elle se termine. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que le rat va proliférer et qu'à l'époque de la peste noire, il y avait des rats noirs partout. Et la peste va toucher toute l'Europe et ne laissera aucun lieu indemne.
Ce sont des rats noirs qui étaient dans les cales du Grand Saint-Antoine,
absolument,
qui se lovaient dans les ballots de soie, d'indienne, de coton, de tissu. Heureusement, avec le temps, le rat noir va connaître un concurrent, ce dont La Fontaine avait eu la prescience.
Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rase en campagne aussitôt et le citadin de dire « Achevons tout notre héros ».
Il faut que je dise que vous êtes aussi un historien de la gastronomie. C'est pour ça qu'on parle, pour certains de nos auditeurs qui sont à l'heure du repas, de rat et de festin de rat. Alors, le rat des champs, c'est le rat noir, le rat des bateaux, mais le rat des villes.
Alors, le rat des villes est apparu en Europe au XVIIe siècle. Il vient de l'Est comme le précédent. Il est arrivé plus probablement par voie terrestre, parce qu'il y a des récits qui disent qu'on l'a vu franchir en colonie les fleuves de Russie. Et sous l'époque de la Fronde, dans le dictionnaire de Larousse, on parle d'une invasion de rats qu'on qualifie de vulcains, qui étaient des rats gris, et qui ont été beaucoup plus féroces que les rats noirs et ont chassé le rat noir. Ils l'ont d'abord chassé dans les endroits secs parce que leur surmulot, Ratus norvegicus, préférait plutôt l'eau et était plus adapté aux villes. Et on dit qu'à la fin du XVIIe siècle, à la Bastille, il y avait du rat noir dans les tours et dans les douves, il y avait des surmulots.
Donc c'est rassurant parce que vous dites que le surmulot, redites-le en latin,
Ratus norvegicus.
Le rat griffère, quoi.
Oui.
Il abrite moins de puces propices à la peste.
C'est-à-dire que l'histoire naturelle étant quelque chose d'assez invraisemblable, la puce du rat noir n'est pas la même puce que celle du surmulot. Et la puce du rat noir a une particularité, c'est qu'elle a des sortes d'épines dans la gorge et il y a un blocage, ce qui fait que quand la puce pique l'homme, elle peut régurgiter une culture pure de bacille pesteux et donc transférer par une seule piqûre la maladie, ce dont la puce du rat noir est beaucoup moins capable. On a pu calculer qu'une piqûre de rat noir, de puce de rat noir infecté, pouvait donner 68% de transmission et on tombe à moins de 20% pour le surmulot.
C'est ainsi qu'en Europe, la peste a été arrêtée dans le Gévaudan, elle n'est pas allée au-delà de Cucuron en Provence après Marseille 1720, qu'on ne l'a vu réapparaître que dans les faubourgs avec les chiffonniers en 1920 du côté d'Aubervilliers, qu'on n'est pas près de la voir réapparaître peut-être, alors que le rat noir, lui, est toujours très puissant, très nombreux.
Le rat noir est très puissant dans tous les pays tropicaux.
Vous pouvez nous dire quand même, chez nous, pour finir sur une note d'inquiétude, combien de rats par habitant dans une ville, de rats des villes, je veux dire, de surmulots.
On dit qu'actuellement, il y a plus de 2 rats par habitant.
Eh bien, c'est sur cette conclusion qu'on s'arrêtera. Merci, Jean Vitaud. Votre histoire de la peste, c'est aux Presses universitaires de France.